I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hello les mamas, bienvenue dans le podcast qui parle de la maternité, la vraie. Celle qui épanouit, qui intrigue, qui fait peur. Celle qui bouleverse, qui construit, qui propulse en terre inconnue. Celle qui concerne tant de femmes que l'on entend si peu. Chaque semaine, l'une d'entre vous nous raconte son histoire sans filtre. Est-ce qu'elle a toujours rêvé de devenir mère? Comment s'est passée sa première grossesse? Quelles ont été les joies et les épreuves qu'elle a traversées? Qu'est-ce que la maternité a changé dans sa vie? Des histoires uniques qui nous rassemblent toutes. Alors, chère mamase, future mamase ou pas mamase du tout, installez-vous confortablement et laissez-vous bouleverser par la maternité, la vraie. Isor avait une idée bien précise de ce que devait être sa maternité parfaite. Un nuage d'amour à la naissance, un allaitement réussi et une maman qui assure. Alors quand elle est devenue mère et que rien ne s'est passé comme prévu, ça a été la descente aux enfers. C'est à l'arrivée de sa première fille qu'Isor remet en question ses capacités à être une bonne mère. D'abord parce qu'elle ne ressent pas la vague d'amour après l'accouchement, ensuite parce qu'elle n'arrive pas à allaiter, et globalement parce qu'elle se sent nulle, vraiment nulle. Les insomnies s'enchaînent, la peur d'être seule s'intensifie, puis c'est l'arrivée des phobies d'impulsion qui va la mener à l'hospitalisation. Après 2 mois, Isor reprend pied, entourée de professionnels à son écoute et à l'aide d'antidépresseurs. Elle peut enfin rentrer chez elle. Puis elle devient mère une deuxième fois et rebelote, la dépression postpartum fait son grand retour avec en plus des envies suicidaires. Alors pour son 3e bébé, Isor décide de faire les choses différemment, bien encadrée dès la grossesse, avec un mari militaire plus présent et quelques gélules pour garder le cap. Bonne écoute! Hello Isor!
Hello Shane!
Merci de nous raconter ton histoire dans Hello Mamas!
Bah merci de m'écouter!
Avec grand plaisir! Alors toi tu es la maman de 3 enfants, ils ont quel âge?
Alors Eleanor a 6 ans, Pio a 4 ans tout pile, tout neuf, et Joseph a moins d'un an et demi.
Ok, alors on va revenir avant que toi tu deviennes mère. Quand tu étais plus jeune, quel regard tu portais sur la maternité? Est-ce que tu t'es toujours dit que tu deviendrais maman un jour ou c'était pas un sujet qui t'intéressait?
Si, je me suis dit que je serais mère. Déjà, j'ai beaucoup joué à la poupée, donc je pense que ça joue avec mes sœurs. Et oui, c'était une question qui était réglée parce que c'était comme ça. Oui, je pensais avoir des enfants et créer une famille, fonder une famille.
Ouais. Et alors, comment tu as rencontré le futur papa de tes enfants?
On s'est rencontrés pendant l'été, en début d'été. Moi, j'avais plein de trucs à régler avant que dans ma tête et j'étais vraiment hyper apaisée sur plein de sujets. J'étais vraiment à point. J'aime bien dire cette expression, mais il m'a cueillie comme un bon fruit bien mûr. Je me sentais bien en fait au moment où je l'ai rencontré et on s'est rencontrés un mariage avec lui. C'était un super copain du marié. Moi, j'étais une super copine de la mariée et j'ai très vite su en fait, quasi 15 jours après l'avoir rencontré, je savais que ce serait lui en fait. Je le regardais et je me disais, ce sera le père de mes enfants. Et c'est quelque chose de hyper étrange parce que je le connaissais pas depuis 2 mois que je me disais, c'est lui. Donc ça, j'ai beaucoup aimé cette sensation d'évidence. Les choses étaient hyper simples. On s'était trouvé quoi. C'était chouette.
Ouais, le coup de foudre.
Ouais, franchement, ouais, parce que c'est le seul garçon dont j'ai parlé à mes parents, que j'ai présenté à ma famille. Enfin, c'était ouais, et puis j'étais un peu vieille quoi, donc enfin, j'avais pas un vieil, tout est relatif, hein, mais j'avais déjà 25 ans, donc voilà, et c'était lui quoi.
Et alors, ton chéri, toi, il est militaire.
Ouais.
D'ailleurs, c'était un mariage militaire, je crois que tu m'avais dit.
Oui, ouais, ouais, c'est ça. Et ben, c'est drôle parce que déjà, je m'étais dit, moi, j'épouserai jamais de militaire. Ça me faisait pas du tout rêver. Et je suis allée un peu en traînant les pieds à ce mariage, même si c'était une super copine qui se mariait, parce que j'avais vachement la flemme du côté militaire, cheveux courts, un peu petit délire qu'ils peuvent avoir entre eux, qu'on comprend pas. L'uniforme, moi, ça m'excite pas plus que ça en fait. Donc, j'allais en traînant les pieds. Et en fait, bah déjà, donc il est dans la marine nationale, donc c'est un petit peu différent de ce que je connaissais, parce qu'ils ont pas les cheveux courts rasés, justement, ils peuvent avoir la barbe et tout, donc c'est des détails, hein, mais n'empêche que ça compte.
Ah,
et puis, ouais. Bah finalement, l'uniforme, en tout cas, bah mon mari, il est quand même, il s'appelle Tanguy, il est plutôt bien gaulé, et donc ça lui va bien en fait. donc finalement, j'ai été sensible à cette chose-là.
Alors, est-ce que ça a été un sujet pour toi justement le fait qu'il soit militaire, parce que j'imagine qu'il doit être souvent absent?
Oui, c'est un vrai sujet qu'on a abordé quand même assez vite, parce que j'ai toujours deux très bonnes amies qui ont épousé, enfin elles étaient maquées à l'époque et là et maintenant elles sont épouses des deux militaires, et donc elles avaient un rythme que j'ai découvert, en fait le premier rythme de la vie militaire, j'ai découvert par leur biais, et je me disais genre ok, c'est chaud quoi. Et en plus, il me semble que quand, bah oui c'est ça, elles avaient déjà des bébés, donc elles avaient quand j'ai rencontré Tanguy, elles avaient déjà une vie familiale, et je voyais comment ça pouvait impacter en fait leur vie et leur rapport à la maternité, à la parentalité. Et du coup, je m'étais dit, ouais, va falloir qu'on en parle sérieusement, parce que c'est pas innocent. Enfin, c'est un vrai sujet qu'on peut pas mettre de côté en se disant, on verra, en fait.
Ouais. Comment t'as géré les premières absences, justement, quand vous étiez en couple?
Eh ben, en fait, assez bien. Au début, moi, j'habitais à Paris, lui, il était à Toulon, donc j'avais ma vie, j'avais mon boulot, j'avais des super copains qui étaient hyper présents. Donc, en fait, c'est dur de s'habituer à l'absence, mais quand on a un rythme qui est bien précis et tout, je trouve que ça va. En plus, on communiquait donc par mail, ou on s'appelait, ou alors on s'écrivait des lettres. Donc ça, il y a un côté un peu à l'ancienne, mais la lettre, je trouve que c'est un vrai moment que tu passes pour l'autre, parce que tu prends ton papier, t'écris, c'est un vrai temps d'amour en fait. Donc et on continue un peu de temps en temps de le faire, ça c'est chouette. Donc on arrivait à communiquer. Je pense que moi, les absences, je les vis plutôt bien, étonnamment. Enfin, je dis ça, mais on verra les prochaines. Mais si j'ai un rythme en fait bien précis, ça je trouve que ça permet de faire passer l'absence. Et puis la clé, c'est aussi d'avoir des trucs, des week-ends ou des choses qui nous font passer, qui font passer le temps en fait, d'avoir dans la semaine des choses de prévues où on se dit c'est un petit but, un objectif à atteindre, et on pense plus à l'absence, mais on pense à la prochaine sortie qu'on va faire, au week-end où on va retrouver sa famille ou ses amis. Et je trouve que encore aujourd'hui, c'est vraiment le truc qui fait tenir, c'est d'avoir des week-ends ou des projets en fait.
Ouais, et tu me disais tout à l'heure qu'il y avait une de tes amies qui t'avait recommandé aussi de préparer le retour.
Ouais, et c'est vrai que ça nous a beaucoup aidé, parce que on a l'impression que les retrouvailles, c'est comme dans les films, on se court dans les bras et puis on se retrouve comme si on s'était quitté la veille. Et en fait, non, parce qu'on a des attentes différentes. Et elle nous avait dit, réfléchissez à ce que vous voulez. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, vous, personnellement, pour ces retrouvailles? Donc, ça peut être de se faire un pique-nique, d'aller au cinéma, de se retrouver à une grosse chouille avec des copains. Enfin, voilà, tous les exemples. Et aussi, ce qui vous fait peur. Donc, j'ai peur que tu sois trop fatiguée, que t'aies pas envie de m'écouter. Enfin, voilà, chacun trouve ce qui est important. Et en fait, ça nous a beaucoup aidé, parce que on a exprimé, d'exprimer son besoin, ça libère, et en plus de savoir le besoin de l'autre, je trouve qu'on peut faire un combo quoi. Donc par exemple, s'il y en a un qui a besoin de dormir, parce que souvent d'ailleurs quand ils rentrent de mission, ils sont fatigués, ils ont besoin de se reposer, on peut faire des retrouvailles les premières 24 heures ou les premières 48 heures qui sont vraiment hyper calmes, où il dort, où il peut se reposer, et on se retrouve en tête à tête et tout. Puis si l'autre, il a envie de voir des copains et tout, bah on va attendre les premières 48 heures et puis on verra les copains après. Enfin, je trouve que c'est un bon moyen en fait d'éviter en fait la déception des retrouvailles où on n'a qu'une envie, c'est de parler pendant des heures et puis l'autre il est crevé et il écoute d'une oreille quoi.
Ouais. Ok. Et alors comment est venu le sujet de la maternité entre vous?
Bah en fait déjà je pense que Nous, il y avait un peu les étapes dans notre tête, et je pense que le fait qu'on se marie, ça aussi, déjà, ça a enclenché le truc, quoi, de se marier. C'était vraiment hyper, c'était dans l'objectif de fonder officiellement une famille. Et puis après, et puis on s'était dit qu'on attendrait peut-être 6 mois. Et puis voilà, on a vécu nos premiers 6 mois de mariage. Et puis quand on était tous les deux assez prêts, parce qu'il vient aussi d'une famille nombreuse, parce qu'il a apprécié vivre avec ses frères et sœurs, on s'était dit go quoi. Et puis je suis très vite tombée enceinte. Donc les choses, elles se sont faites assez naturellement et facilement.
T'es tombée enceinte au bout de combien de temps?
Je pense quelques semaines.
Ah oui, d'accord, ouais, donc très très rapide.
Ouais, super rapide.
Ouais, comment t'as découvert ta grossesse ?
Comment j'ai découvert ma grossesse ? Alors, j'avais pas forcément des nausées ou des... j'ai de la chance pour ça, parce que j'ai des grossesses physiquement qui sont assez faciles. En revanche, j'avais la poitrine ultra, ultra sensible. Et je pense que, et d'ailleurs pour les trois grossesses à chaque fois, c'est comme ça que j'ai capté le truc, genre vraiment gonflée et douloureuse quoi, presque en fait. Donc c'est le premier truc qui m'avait mis vraiment j'avais un peu la puce à l'oreille. Et puis après, je pense que ça devait être un retard de règles quoi, donc classique.
Et il était là ton chéri à ce moment-là ?
C'est une bonne question. Non, il était pas là, il était en mission. Et donc, je crois que je lui avais fait un petit rébus. J'avais dû lui envoyer par mail ou un truc comme ça. Et en fait, c'est marrant parce que finalement, c'est le fait... Là, c'est marrant, on parle des absences, des missions et tout, comme quoi on en avait parlé dès le début de notre couple. Et en fait, je lui ai annoncé, donc il a fini par comprendre que j'étais enceinte, on s'appelle, il était trop content et tout. Et donc, on savait que le terme, c'était en septembre. Donc voilà, on en parle. Enfin voilà, je sens qu'il est trop heureux. Et puis en fait, peu de temps après, lui, il est reparti sur son bateau, quoi, normal. Enfin, il était déjà dessus, mais il est resté sur son bateau. Et en fait, il a eu un appel du RH de la marine qui lui proposait un poste en outre-mer. Et je pense qu'il était tellement un peu coupé de notre vie quotidienne et tellement excité par ce projet qui lui l'excitait, l'outre-mer, une nouvelle affectation. Il est trop content. Il a dit oui tout de suite et il a oublié de m'en parler. Complètement. Et donc, il m'a mis un peu devant le fait accompli quelques jours après en me disant voilà, Isor, c'est trop cool. Voilà, on m'a proposé un poste en outre-mer et tout. Et moi, j'étais là, genre, mais en fait, je suis enceinte. Tu sais, ça veut dire que, en fait, les affectations dans la marine, c'est vraiment un peu comme un temps scolaire. Donc, c'est souvent, ça commence souvent en juillet-août. Donc, ça veut dire un déménagement pendant l'été. Et en fait, j'en ai beaucoup voulu. Parce que j'avais l'impression qu'il nous avait oubliés, parce que je pouvais dire nous, parce que maintenant il y avait un petit bébé dans mon ventre. Et puis l'outre-mer, c'était pas trop mon rêve ultime, ni mon délire, en fait. Je comprends l'idée, mais moi je suis assez casanière, donc, et puis là, ça faisait un an que j'étais arrivée dans notre ville, à Toulon, je commençais à faire mon trou, j'étais bien, j'avais envie de pouvoir avoir mon petit bébé, dans ce petit nid que j'avais commencé à me créer, j'avais pas envie de m'arracher à ma ville et de partir ailleurs, quoi. Donc, c'était un petit couac au début. Mais qui a eu du sens en fait sur l'histoire, sur l'après, parce que quand j'ai commencé à me sentir pas très bien après la naissance de ma fille, j'ai vachement mis ça sur le dos de la Martinique, en me disant, parce que du coup c'était la Martinique où on est parti, en me disant oui mais c'est parce qu'en fait je voulais pas aller en Martinique, je me suis vachement volé la face avec ça, en me disant je suis pas heureuse parce qu'en fait j'habite pas à Toulon, que je suis pas dans mon appartement et tout, donc mais en fait, non, c'était pas ça.
On va y revenir un petit peu plus tard. Donc, vous déménagez pendant ta grossesse ?
On déménage pendant la grossesse. La chance que j'ai, c'est que je suis vraiment en forme physiquement. Et puis, bon, voilà, quand on a déménagé, j'étais genre à 7 mois. Donc, c'est quand même c'est le trimestre où les choses, elles sont quand même assez, assez cool, quoi. On n'est pas gêné par son ventre, on arrive à dormir facilement. Donc, finalement, le déménagement, il s'est quand même plutôt bien passé. On est partis tous les deux en Martinique. On est arrivés en juillet. Et moi, je venais d'avoir mon permis, donc c'était la mission. Il fallait absolument que j'aie mon permis avant d'arriver en Martinique, parce que là-bas, c'est vraiment... il faut avoir une voiture, en fait, pour se déplacer. Et quand on est arrivé, il est reparti en mer assez vite, en août. Et donc, il fallait que je puisse me déplacer pour me nourrir. Donc, heureusement, j'ai eu mon permis. Je l'ai su, je pense, à quelques jours avant de partir. J'ai bien aimé, en fait, le temps qu'on a eu. On a eu peut-être un mois où on s'est installé, on a visité l'île, on était dans notre petite bulle en se disant, bah, c'est nos derniers temps à deux. Donc, on a essayé d'en profiter au maximum. Et puis, il est reparti en mer. Et c'était pas si dur que ça. Parce que moi, à ce moment-là, je faisais un mémoire pour valider, en gros, je faisais une validation d'acquis et d'expérience, et donc ça m'a occupé, en fait, j'allais bosser toujours à la bibliothèque, j'avais mes rendez-vous avec la sage-femme, j'avais quelques copines que je commençais à connaître, donc les deux premiers mois en Martinique ont été assez, ont été sympas, clairement, c'est un bon temps qu'on a passé.
Donc t'as dû trouver une maternité aussi, enfin te réinscrire à la maternité et tout ça.
Ouais. Et alors, ce qui est pas mal avec la marine, c'est qu'il y a quand même un réseau de nanas, de familles, de trucs et tout. Donc finalement, avant d'arriver en Martinique, je savais déjà là où il fallait que j'aille, quel était le super médecin. Enfin, donc ça c'est vraiment une aide quand même. Et donc on était logés par la marine dans un lotissement. Et juste à côté du lotissement, il y avait une clinique qui était vraiment mais à 5 minutes quoi, même pas. Et donc moi j'ai suivi le conseil de mes amis qui m'avaient dit va dans cette clinique. Il y a un super médecin, un super gynéco, donc j'ai eu la chance d'avoir un rendez-vous avec lui. Et j'étais pas, moi, l'hôpital public, ça me va très bien, hein, franchement, j'aurais très bien pu accoucher à l'hôpital public, mais il y a souvent des bouchons en Martinique, et du coup, c'était plus simple d'être vraiment proche du lieu où on habitait. Donc voilà, j'ai un peu fait comme ce qu'on m'avait dit, quoi.
Ouais. Et alors, comment s'est passé ton accouchement? Est-ce que le papa était là?
Ouais, il était là. Il était là et c'est drôle parce que j'ai ma première fille, mon aîné est né le même jour que ils ont le même jour d'anniversaire en fait avec son père. Donc Ouais, c'est drôle, j'y croyais pas trop. Moi, je m'étais dit non, ils auront deux jours différents et tout. Donc non, ils sont voilà, c'était mon petit cadeau. Et alors ce qui est étonnant, c'est que Eleanor, donc elle est née le jour il y a une énorme tempête qui a eu lieu en Martinique, c'était la tempête Maria. Et quand on est parti à la maternité, alors c'était le début donc ça allait, mais ça commençait à bien secouer quand même un peu partout. Et quand j'ai accouché, on a dû rester en fait un peu cloîtré, on n'avait pas le droit de sortir en fait pendant un ou deux jours parce qu'il y avait vraiment la tempête qui mettait tout par terre dans la ville et en Martinique quoi.
Et ton accouchement s'est bien passé ?
Très bien. Moi, j'avais repris contact aussi, enfin pas repris, j'avais pris contact avec une sage-femme qui habitait pas très loin du lotissement. Karine, je la retiens parce qu'elle était hyper bien. J'avais vraiment aimé. Les mois de préparation, quoi, en fait, de la préparation à la naissance. Et j'avais trouvé qu'elle avait bien présenté les choses. Elle m'avait dit, faut se préparer à tout, faut se préparer autant à accoucher par voie basse que avoir une césarienne. Elle disait qu'elle voyait trop de mamans qui étaient déçues par rapport à des césariennes surprises. Et je sais pas, moi j'avais bien aimé le fait qu'elle dise tout est possible, faut s'attendre à rien, la douleur, on peut dire qu'on accouche sans péridurale et puis en fait on supporte pas. Donc il faut pas se mettre de pression et tout est possible. Et moi j'avais pas trop d'idées péridurale pas péridurale. Je m'étais dit ouais, je pense que je la prendrai. Donc on est arrivé à la maternité, c'était la nuit avec le vent donc qui battait autour de nous en se disant mais c'est incroyable quand on reviendra quand on ressortira d'ici notre vie aura changé quoi. Et ouais. Puis j'étais un peu ouverte, j'étais genre à 2,5-3 donc c'était bon, je pouvais rester. Et puis j'ai eu la péridurale. Je me rappelle que j'ai même dormi. J'ai dormi quoi. Je disais mais c'est un truc de dingue ce truc. C'est-à-dire qu'il y a quand même un moment où en fait oui j'avais mal en fait. Enfin avant que la péridurale soit posée, il y a une vraie souffrance quoi. Les contractions c'est quelque chose de d'impressionnant, d'intense. Et la péridurale arrive et là pouf, on sent plus rien quoi. Enfin je sentais mon corps mais je n'avais plus mal. Ça c'est quand même un truc de dingue. Donc je me disais mais c'est incroyable, je peux même dormir quoi. J'ai somnolé et puis au matin ça y est, le col était assez ouvert et puis j'ai poussé et puis voilà quoi. C'était honnêtement c'était un accouchement très très facile, très chouette.
Ouais. Et alors l'après, justement, quand vous vous retrouvez chez vous, comment ça s'est passé pour toi, tes premiers pas dans la maternité ?
Et ben en fait, ça a été tout de suite difficile parce que en Martinique, les mamans elles restent 5 jours. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, ou peut-être dans la clinique dans laquelle j'étais, c'était peut-être comme ça dans la clinique. Donc, je suis restée 5 jours à la maternité, et en fait, dès la maternité, c'était dur parce que déjà, j'ai pas ressenti l'espèce de nuage d'amour que parfois certaines mamans décrivent, le truc qui te tombe dessus de tendresse absolue, d'impression d'une rencontre. J'ai pas du tout ressenti ça. Moi, j'ai vu ma petite fille, on savait pas ce que c'était. Donc déjà, il y a la surprise de voir que c'est une petite fille qui était posée sur mon ventre, et j'ai eu du mal à réaliser. Vraiment, j'étais dans un état un peu de sidération, mais de genre, waouh, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, mais je réalise pas qu'en fait c'est ma fille, quoi. C'est mon bébé. Je pense que je me suis peut-être dès mon enfance, en fait, je m'étais dit j'avais une image très claire de la mère que je serais. Donc c'était en clair la mère parfaite, hein. Et pour moi, la mère parfaite, elle devait allaiter. Et en plus, en Martinique, là-bas, ils sont très pro-allaitement, mais ça m'allait bien. Et ça n'a pas fonctionné. Et en fait, on trouvait pas la position, j'étais crispée dans mon corps, elle était crispée aussi. Enfin, c'était un espèce de cercle vicieux de. Et là, moi, je me suis vraiment, dès les premières 24 heures, je me suis dit, mais je suis vraiment nulle. Je suis nulle. J'arrive même pas à faire ce que des mères et depuis des millénaires font ça, nourrir son enfant. C'est quand même le truc le plus logique du monde. Et j'y arrive pas, quoi. Et j'ai vraiment un souvenir d'une soirée où elle pleurait. Je pense qu'elle avait faim, la peau. Et des sages-femmes qui m'aidaient à trouver la position. Et elle pleurait, elle était rouge. Et de m'être dit, mais, ah, je veux pas, en fait, ça. Enfin, un bébé comme ça. De son père qui lui était hyper calme, hyper serein avec elle, et je les regardais tous les deux et je me disais, mais j'ai envie de me barrer, en fait. Vraiment, j'ai cette sensation là de me dire, c'est pas du tout ce que j'avais imaginé. Et donc, en fait, en rentrant de la maternité, déjà j'ai demandé à rester plus longtemps, tellement j'étais hyper stressée de tout. Je voulais tout connaître, tout savoir, tout maîtriser de mon enfant. Je voulais évidemment gérer mon allaitement comme une déesse, mais je voulais aussi comprendre pourquoi elle pleurait, pourquoi elle avait le petit doigt levé, pourquoi elle ronflait quand elle dormait. Enfin, donc j'étais là tout le temps à regarder tous les trucs sur internet, la Leche League, les forums, dès qu'elle respirait un peu fort, j'allais vérifier. J'étais vraiment à la fois pas hyper à l'aise avec elle, alors que j'aurais imaginé être très connectée, être vraiment presque dans un lien instinctif animal. J'étais pas du tout comme ça. Et en même temps, j'étais survigilante. Voilà, à vérifier qu'elle respirait, qu'elle allait bien, qu'elle avait bien chaud, qu'elle avait pas trop chaud, j'avais l'impression de tout faire mal. Donc, je passe du temps à appeler les sages-femmes, de poser des questions. Mais ça, c'est normal. Mais ça, est-ce que je le fais bien? Donc j'ai demandé à rester plus longtemps à la maternité. Et puis, le gynécologue qui m'avait accouché, il m'avait dit, vous faites très bien. Détendez-vous. Faites-vous confiance. Mais si vous voulez, je vous donne le contact d'une psychologue. Parce que on vous sent très inquiète. Et puis, je pleurais beaucoup. Donc, on a remarqué que vous aviez beaucoup d'émotions. Donc, si vous voulez, allez voir la psy à votre sortie, quoi.
Mais c'est ce que t'as fait ?
Et c'est ce que j'ai fait parce que je suis assez ouverte. De toute façon, moi, avant de rencontrer Tanguy, j'avais fait une grosse thérapie qui m'avait apaisée sur plein de trucs et tout. Donc, je m'étais dit, bah, go, franchement, je prends tout ce que je peux prendre pour aller mieux. Et j'y suis allée, mais en fait, je pensais à la dépression postpartum, mais j'avais une image très imprécise de ce que c'était. J'avais lu un bouquin dessus qui était un bouquin un peu un thriller qui était quand même assez glaçant. Donc je me disais genre, oh non, c'est pas ça. Elle rejette vachement son bébé. En tout cas, c'est le souvenir que j'en garde. Elle est vachement dans le rejet de son bébé. Moi, j'étais pas dans le rejet du tout. Donc j'avais cette petite lumière dans ma tête, mais j'avais très envie qu'on l'éteigne. Et donc quand je suis allée voir la psychologue, je pense qu'elle aussi, elle reliait la dépression postpartum au côté rejet de l'enfant ou peut-être désintéressé. Et quand elle a vu à quel point je m'inquiétais, elle m'a dit mais non, vous inquiétez pas, vous êtes pas du tout dans la sphère de la dépression, c'est normal, un premier, mais c'est vrai, en plus elle avait raison, je pense, un premier, ça bouleverse, vous êtes dans un endroit, vous êtes pas vraiment chez vous. Et donc j'étais allée la voir deux fois, et deux fois elle m'avait vraiment dit, mais en gros, rassurez-vous, quoi. Et je me rappelle de cette phrase où elle avait dit, vous n'êtes pas dans la sphère de la dépression. Le truc est resté bloqué dans ma tête. Je me suis dit, ok, bah là j'ai trouvé de quoi éteindre ma petite lumière d'inquiétude là, et je vais m'accrocher à ce qu'elle m'a dit, parce que parce que le mot dépression est un mot terrorisant, quoi.
Ouais.
Ça m'allait bien qu'elle m'ait dit ça.
Et alors, les semaines passent, les mois passent, est-ce que ton état s'améliore? Est-ce que ton chéri repart en mission? Comment ça se passe?
Alors, les semaines, il se passe à peu près 2 semaines. Mon état va empirant, donc je suis très stressée, très 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 stressée. Je n'ai pas faim du tout, je n'ai pas d'appétit. Je suis obsédée par l'allaitement et par l'échec de mon allaitement. Je fais des grosses insomnies, donc je n'arrive pas à dormir. Alors que Eleanor, donc notre petite fille, dort. Enfin, franchement, elle a des cycles, genre je sais pas, de 3-4 heures, quoi. Donc c'est quand même un truc où la nuit on peut se reposer. Et moi, je suis là, les yeux grands ouverts, l'esprit envahi d'inquiétude et vraiment de me dire, j'y arriverai pas. Je suis nulle. Vraiment, c'est le mot qui a le plus résonné dans ma tête, quoi. Je suis nulle, j'y arriverai pas. Ça m'est arrivé de réveiller Tanguy et de pleurer, de m'accrocher à lui, vraiment d'avoir pour reprendre pied, en fait, dans la réalité, de toucher sa peau, d'avoir besoin de quelque chose d'incarné, en fait. Je pense que j'ai été complètement désincarnée tellement la peur m'envahissait. Et de lui dire, mais j'y arriverai jamais, je suis nulle et tout. Et on s'était dit tous les deux, genre, ouais, quand même, c'est pas innocent, quoi. C'est cette émotion comme ça qui, enfin, ce qui était très fatigant, c'est qu'il y avait aussi des moments où ça allait. Donc il y avait des journées où je commençais la journée en me disant, mais là c'est bon, ça va le faire, je vais y arriver. Et puis bah ça se passait bien, j'étais assez sereine, Eleanor était trop mignonne, et mais je finissais la journée avec des énormes boules dans le ventre. Et donc ce qui était difficile, c'était hyper fatigant, en fait, épuisant, de se dire, mais comment elle va être ma journée? Est-ce que ça va être des fluctuations d'humeur? Et donc sur quoi je peux m'appuyer, en fait, parce que je sais pas comment je vais réagir. Donc ça, c'était très fatigant. Donc il y a ça, donc je perds beaucoup de kilos. Je ne dors pas, je mange pas, j'ai pas beaucoup d'énergie et j'ai pas beaucoup d'envie. L'envie s'éteint. J'ai pas envie de lire ou j'ai pas envie de. J'ai juste envie de réussir mon allaitement.
Ah ouais, t'es encore sur l'allaitement à ce moment-là.
Ouais. Je suis méga bloquée sur l'allaitement, qui se passe toujours pas bien. Je suis pas à l'aise et je m'en veux. Je me dis, mais c'est en plus vraiment dans mes images de la maternité parfaite. C'est j'en ai en plus des amis comme ça. Mais je pense qu'en fait j'ai fait le deuil aujourd'hui. Et pour moi, il y a 10 000 manières d'être mère. Il y en a pour qui c'est comme ça, elles y arrivent, quoi. C'est fluide. Et puis il y en a d'autres pour qui c'est plus compliqué. Bon bah voilà. Et moi, je pensais que je serais celle pour qui il y a pas de question sur la position. Il y a pas de question sur le lait. Enfin. Bon, moi, ça fonctionnait pas. J'étais complètement crispée dans mon corps. En plus, ça, je l'ai su après. Elle avait un gros frein sous la langue, et donc en fait, j'étais pas assez stimulée. Donc, j'avais pas beaucoup de lait. Donc, elle avait faim. Donc, elle était tout le temps collée à moi. Donc, je me sentais souvent oppressée aussi. J'avais envie que ça s'arrête au bout d'un moment. Donc, ouais, c'était le premier sujet. Je pense allaitement. Il faut que je réussisse mon allaitement. Et si je réussis mon allaitement, tout va s'arranger.
Est-ce que à un moment t'as réussi ou t'as lâché prise, enfin t'as lâché l'affaire surtout?
Moi non, j'ai fini par lâcher. J'étais hyper triste. C'est vraiment un échec absolu, quoi. J'avais l'impression d'être vraiment de trop me regarder, enfin ouais, de pas être assez connectée avec mon corps, quoi. Je sais pas comment dire, mais j'étais vraiment déçue. Et puis en fait, le truc qui a joué, c'est que Tanguy est reparti en mission. Puis alors là, il est reparti pour 3 mois et elle avait à peu près 3 semaines. Et je me suis dit, bon, lâche l'histoire de l'allaitement, mais en revanche, je me suis rendu compte que j'avais très peur d'être seule avec Eleanor. J'étais terrorisée par la solitude, par le fait d'être seule à avoir charge d'âme. Et comme j'étais persuadée que j'étais nulle et que j'y arriverais jamais, je me disais, mais je ne peux pas être seule avec elle parce que ça va mal se passer puisque je suis nulle. Donc, on s'est vachement concentré sur trouver un moyen de pallier l'absence de Tanguy. Et en gros, on a appelé nos familles, genre à la rescousse, quoi. Venez nous aider, ouais. Les gars. Isor, elle va pas y arriver, en fait.
Et donc, qui est venu?
Donc, dans un premier temps, j'ai un oncle et une tante qui sont venus une semaine, le temps que ma mère arrive, parce qu'elle n'était pas dispo tout de suite. Et donc, ça s'est très bien passé. Mais je pense, avec le recul, que j'ai toute l'énergie qui me restait, je l'ai vraiment mise à les accueillir au mieux. Pour les remercier, en fait, de venir, parce que c'était vraiment hyper sympa de venir me sauver, quoi, presque, honnêtement. J'avais tellement peur de cette solitude. Et puis après, c'est ma mère qui a pris le relais. Et alors moi, ma relation avec ma mère est compliquée. Donc au départ, avant d'accoucher, avant tout, je m'étais dit, je lui demanderai pas d'aide. Et puis finalement, je me suis rendu compte que si, j'avais besoin d'elle et que j'avais besoin de son aide. Donc elle est venue et heureusement qu'elle était là. Franchement, elle est venue 3 semaines. Elle m'a vachement aidée, mais quand elle est arrivée, j'ai vraiment tout laissé tomber. Enfin, c'est-à-dire que je me suis complètement, je pense qu'elle m'a vue dans un état qui était pas très rassurant. Elle était très inquiète. Et puis c'est elle qui m'a dit, Isor, tu fais une dépression. Et moi, je n'ai pas voulu l'entendre. Donc, je lui ai dit non. C'est parce que Tanguy est parti. C'est parce que je j'arrive pas à allaiter. Et c'est à cause de la Martinique. C'est ce que je disais au début. Je suis pas bien. Je suis pas chez moi. Mais non. Je fais pas de dépression. Non. C'était un non, mais immédiat, quoi. C'est sorti de mes tripes. Genre non, je ne fais pas une dépression. Donc après, elle me l'a plus jamais redit parce que je pense qu'elle a vu à quel point j'avais réagi très fort.
Ouais, bah t'avais gardé en tête en plus ce que la thérapeute t'avait dit.
Exactement. Et puis ça me fait, en fait moi le mot dépression, autant je pouvais être un peu détendue d'avoir fait une thérapie. En plus je dis ça, mais franchement j'étais détendue moyen. Je me disais ça m'a vachement aidée, donc j'avais conscience de l'aide que ça avait été, mais c'était pas un truc que je balançais à tout le monde. C'était pas une info sur lequel que j'allais dire facilement. C'était vraiment quand même un peu un petit secret, quoi. Donc là, la dépression, c'est genre la totale. Ah non, le mot dépression, c'est pas possible.
Ouais. Et alors, combien de temps ça a duré et à quel moment t'as compris que t'étais en fait en dépression postpartum?
Eh ben, ça a duré longtemps, ça a duré 1 mois et demi. Et en fait, jusqu'à ce que ma mère me dise, écoute, Isor, moi, il faut que je rentre à Paris, je vais pas te laisser. Donc, tu rentres avec moi et tu reprendras un billet pour revenir en Martinique quand Tanguy rentrera de mission. Donc, on se dit, en fait, je dis ok, évidemment, parce que en fait je pouvais pas être seule, en fait j'avais pas réglé ce problème de peur, quoi, d'être seule avec ma fille. Donc je rentre avec ma mère et avec ma fille, je vais à Paris, je vais chez elle et elle a un compagnon qui est médecin.
Okay.
Et lui il me voit un peu au début, enfin avec elle, avec ma fille, je pense qu'il m'observe, il voit à quel point je suis inquiète. En fait, en arrivant à Paris, je m'étais dit, ok, c'est bon, toutes les raisons avancées pour expliquer mon mal-être, le fait, donc la Martinique, l'allaitement, bah c'était fini, ça y est, j'étais passée au biberon. Donc je m'étais dit, ok, ça va aller mieux. Et puis en fait, je rentre à Paris. Au début, j'étais trop comme une balle, l'euphorie, un peu de retrouver mes amis, de retrouver c'est ça, ma famille. Je pense que la première semaine, je suis sur un bon mood. Et puis en fait, au bout d'une semaine, le mal-être reste, l'absence d'énergie, l'inquiétude, le besoin de maîtriser mon bébé, de tout comprendre d'elle, d'être la plus parfaite des parfaites. Ça avait pas cessé, quoi. Et donc c'est lui en fait qui un matin m'a dit, bon Isor, faut que je te dise, je te parle en tant que médecin. Et en fait, tu fais une dépression, tu ne vas pas bien du tout, et maintenant, il faut vraiment que tu te fasses aider, quoi. Et en fait, j'ai dit bah oui, enfin, je le savais, quoi. Au fond de moi, je pense, enfin, je sais pas si c'est, je le savais, mais je me doutais qu'il y avait un truc qui était pas ordonné. Et donc, j'ai vraiment baissé les armes quand il m'a dit ça, parce que voilà, il me parlait comme médecin. J'ai vraiment senti dans sa voix l'argument d'autorité, mais qui était juste. Et là, j'ai lâché prise et j'ai dit ok, c'est bon, oui, c'est vrai.
Et alors, t'as fait quoi à partir de ce moment-là?
Et à partir de ce moment-là, il m'a dit il faut que t'ailles aux urgences psychiatriques et tu leur dis ce qui se passe et tu vas voir, ils vont te donner des antidépresseurs, ils vont t'aider. Et en fait, ce que j'ai pas raconté, c'est que la veille avant qu'ils me disent ça, justement, j'avais eu une énorme crise d'angoisse. Donc j'étais toujours en insomnie, hein, j'avais ces problèmes, j'arrivais toujours pas à dormir. Et la nuit fait que les inquiétudes, je trouve, avec la nuit, ont tendance à augmenter. Les choses qui dans la journée, dans la lumière du jour, vont être beaucoup plus raisonnées. La nuit, ça prend une ampleur dramatique, démesurée. Et puis moi, c'était vraiment ça. Quand la nuit venait, il y avait vraiment une inquiétude qui montait, quoi. Et là, cette nuit-là, je sais pas ce qui s'est passé. C'était panique à bord. Et je me suis vue. Donc je dormais avec Eleanor, qui était dans son petit cosy à côté de moi, et je me suis vue lui mettre, donc j'ai vu une image en fait mentale comme une photographie, je me suis vue lui mettre la tête sous un oreiller et ça a été terrorisant. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette image, est-ce que ça veut dire que je veux lui faire du mal, est-ce que je vais lui faire du mal, est-ce que ça montre que j'ai envie de l'étouffer sous un oreiller. Je me suis dit je suis folle, Donc vraiment, je me suis dit, je suis une tarée, il faut que je fasse mes valises, que je fuis en fait, que je m'en aille, que je laisse, que je protège cette petite fille qui a rien demandé et que je me barre quoi. Et puis en fait, j'ai été quand même, bon, je la voyais, elle était là, toute mignonne à dormir avec sa respiration de nourrisson, enfin... Je suis allée, je me suis dit non, je vais pas faire ça, je vais pas faire mes balises. Mais franchement, j'étais dans une déraison quoi. Et finalement, je me suis rendu compte que je partais un peu en délire. Et je suis allée réveiller ma mère. Et je lui ai dit, mais maman, il m'est arrivé un truc horrible. J'ai eu ça et tout. Et en fait, je pense que elle a dû dire. Alors, je pense pas qu'elle ait révélé ce que j'avais pensé à son compagnon, mais elle a dû juste dire, je suis hyper inquiète, Laïsor, vraiment, elle va pas bien. Et je pense que c'est ce qui a déclenché la petite mise au point le lendemain, en fait.
Ouais, elle lui a parlé des phobies d'impulsion que t'as pu avoir.
Exactement, c'est ça. Mais je savais pas que c'était une phobie d'impulsion. Moi, je me suis vraiment dit, je suis folle. Donc, on va aux urgences le lendemain, assez vite en fait, finalement. On va aux urgences et moi, j'avais vraiment mon idée de... je vais dire ce qui se passe. Ils vont me dire, OK, on est désolé pour vous. Tenez, prenez ce traitement et puis ça va aller mieux, quoi. Et donc, j'arrive aux urgences d'un hôpital. On avait choisi un hôpital militaire, justement, en se disant comme ça, ça peut être un bon moyen de garder le lien avec Tanguy. Et en fait, voilà, j'arrive, je rencontre le médecin psychiatre de garde, je lui raconte tout ce que je traverse depuis un mois et demi, je lui raconte cette fameuse pensée horrible que j'ai eue, et je sens qu'elle est quand même un peu remuée. Et elle me dit, OK, attendez-moi, je vais voir un collègue et tout, puis elle revient, et là, elle me dit, vous pouvez pas repartir, en fait. Et je lui dis, quoi? Elle me dit, je vous garde, en fait, vous avez pas le droit de repartir.
Ah ouais.
Et donc, je lui dis, mais je fais comment avec ma fille et tout? Elle me dit, vous vous débrouillez, mais vous êtes dans un état qui est pas du tout, qui est vraiment très inquiétant. Donc là, on vous hospitalise de force. Et puis, si vous êtes pas d'accord, elle me dit un truc, genre, je fais une hospitalisation j'ai oublié le terme, mais c'est un truc où tu peux forcer d'un tiers, quoi. Un tiers peut forcer une hospitalisation s'il estime que le niveau de santé est trop bancal, quoi. Et donc là, c'était la panique à bord, mais panique. Je me mets à pleurer, je m'accroche à Eleanor, je refuse. Ma mère me voit rentrer de ce rendez-vous en pleurant. Elle me dit, mais elle se met aussi à pleurer. Tout, enfin, c'était vraiment. Mais quand j'y repense, c'est à la fois drôle et à la fois mais terrible, quoi, tragique. Et puis donc on commence à dire que jamais, je n'irai jamais me faire hospitaliser, que je vais pas être séparée de ma fille. Et puis là, la médecin de garde, elle me dit une phrase mais tellement horrible. Oh là là. Elle me dit, mais quand vous avez eu cette pensée cette nuit, que vous avez imaginé lui faire du mal et que vous avez pensé fuir, vous y pensiez pas trop à votre fille là, non? Oh, alors là, du coup, ça m'a vraiment achevé, quoi. Je me suis vraiment dit genre, oh, ok, enfin, ok, j'ai vraiment un problème en fait, donc je suis vraiment folle.
Wow.
Et puis finalement, on a fini par se calmer, on a fini par comprendre que il valait mieux que j'obtempère, quoi, que j'obéisse. Et puis je me suis séparée de ma petite fille de un mois et demi qui est repartie avec sa grand-mère. Et moi, je suis arrivée dans une chambre blanche, dans un état, je pense, de panique absolue. Il y a un infirmier qui m'a donné deux pilules. Il m'a dit, allez, tenez, hop, j'ai avalé mes pilules. Je me suis endormie pendant 2 heures. Et puis après, je me suis retrouvée, genre, voilà, je suis hospitalisée et je sais pas ce qui va se passer, quoi.
Ah là là, ah oui, c'est un peu comme dans les films quand on les voit arriver à...
Exactement.
Dans l'hôpital psychiatrique, tout blanc.
Ouais, exactement, tout blanc, hyper impersonnel. Et puis vraiment, moi j'étais dans un état de, j'avais l'impression que tout s'effondrait, toute ma vie quoi, tout ce dont à quoi je tenais, c'était en train de s'effriter directement sous mes pieds quoi.
Et t'as pu envoyer un mail ou appeler le papa, ton chéri à ce moment-là?
Alors j'ai pas voulu, j'avais tellement honte, mais vraiment, j'avais tellement honte que je n'ai pas voulu lui dire. C'est ma belle-mère qui m'a dit, mais Isor, c'est ton mari, enfin voilà, c'est le père de ta fille. Et je lui ai dit, non, je vous promets, je peux pas, dites-lui, mais moi je peux pas, je voulais même pas qu'il sache que je prenais des antidépresseurs. Donc j'étais dans un déni, enfin, ouais, j'ai eu très très peur qu'il ne comprenne pas et qu'il... Ouais, c'est ça, qu'il comprenne pas, qu'il se dise que j'exagère. Et j'avais vraiment honte. honte. Et d'ailleurs, au début, je voulais même pas, je voulais même pas que certaines amies soient au courant. Enfin, en fait, j'ai limite, ma mère disait à qui je peux le dire et tout. Je pense que c'était ma fratrie et puis point barre, quoi. Il y avait personne d'autre qui devait le savoir.
Et t'es restée combien de temps dans cet hôpital?
Je suis restée 3 semaines.
Ah ouais, quand même.
Ouais, c'était long. Je suis restée 3 semaines avec ce qui a été... En fait, c'était à la fois hyper positif et à la fois négatif parce que ce qui a été difficile, c'est que je pense que comme on était dans un hôpital militaire, c'était pas du tout des médecins qui étaient vraiment spécialisés dans la post-natalité, quoi. C'était plus les chocs traumatiques liés aux missions, voilà. Donc, moi, j'étais un peu comme un cheveu sur la soupe, quoi. Donc, ils m'ont jamais donné de diagnostic, donc je ne savais pas ce que j'avais. On m'a pas expliqué ce que c'était que la pensée que j'avais eue. Donc je me disais vraiment que j'étais folle. Et puis du coup, autant le lien avec Eleanor était là, donc j'étais pas dans le rejet, mais plus le temps à l'hôpital avançait, plus je me disais, comme personne m'expliquait ce que j'avais, plus je me disais je suis folle, je vais lui faire du mal, il faut que je la protège. Et donc plus le lien qui s'était créé entre nous se distendait petit à petit. Et donc c'est ce qui était très positif, c'est que j'ai eu un entourage familial de l'espace. J'ai fini par dire à mes amis ce qui se passait, donc amical aussi. Donc les gens sont venus et tous les jours j'avais quelqu'un qui venait m'emmener Eleanor pour que je la voie au moins une fois par jour. Et donc c'était génial. Franchement, ça m'a permis de, je pense, de tenir le coup. Mais en même temps, plus je la retrouvais, plus je m'éloignais en fait en me disant mais je peux pas créer du lien avec cette petite fille, je suis dangereuse. Et donc je me détachais petit à petit d'elle, quoi. Donc c'était paradoxal parce qu'en même temps j'avais besoin de la voir et j'étais trop heureuse de la voir tous les jours avec moi. Et en même temps, il fallait que je la protège, quoi. Donc ça, c'était dur. Et en même temps, j'ai rencontré des patients qui m'ont beaucoup émue. J'ai rencontré des tas de gens que j'aurais jamais vus si j'étais restée dans ma petite vie bien à l'abri, bien protégée. J'ai créé des il y a eu du lien qui s'est créé entre nous c'était beau en fait, c'était de la bienveillance, de l'empathie, c'était on se serre les coudes et ça c'était franchement c'était une vraie chaleur quand j'y repense. Je ressens encore un peu cette chaleur là d'une forme d'amitié en fait dans le péril, quoi. Je sais pas comment dire les choses mieux, mais donc il y a eu à la fois des choses très positives et à la fois donc des choses dures parce que moi je pense que c'est pendant ces 3 semaines où j'ai été le plus dans le mal par rapport à ma maternité, à me dire mais je suis une incapable et en plus de ça je suis dangereuse. Et ce qui m'a sauvée quand même, c'est que c'est grâce à l'hôpital militaire que je suis ensuite allée dans un autre hôpital, un autre service en fait, qui est un service spécialisé pour les mères bébés. Donc ça s'appelle unité d'hospitalisation mère bébé, donc UHMB. Et il y en a quelques-uns en France, il y en a quand même pas mal. Donc je me dis que c'est qu'on a trop de chance d'avoir ça quand même. Et là c'était l'UHMB, la pomme comme le fruit, quoi. Et en gros, ils m'ont dit bah en fait, vous êtes pas assez guéri et vous allez pas encore mieux, enfin assez bien pour pouvoir rentrer dans le monde, enfin retourner chez vous avec votre fille. La seule porte de sortie possible, c'est d'aller dans ce service mère bébé. Heureusement que j'y suis allée. Ils m'ont amenée là où j'ai été sauvée, entre guillemets.
Ouais. Et là, t'es restée combien de temps ?
2 mois.
Ok, d'accord. Donc là, ouais, c'était des visites de ta fille aussi quotidiennes ou comment ça se passait ? Non, elle était avec toi directement ?
Avec moi. Elle était avec moi. Du coup, c'était un petit... Donc déjà, ça n'avait rien à voir avec l'univers froid et impersonnel de l'hôpital dans lequel j'étais avant. C'était une petite structure, un peu comme une petite crèche avec des coussins, plein de trucs. Tout est fait pour la mère et le bébé, quoi. Donc ça m'avait tellement manqué en plus pendant les 3 premières semaines. Là, je retrouvais un lieu fait pour les mères, fait pour les enfants. J'avais ma petite chambre. C'était une chambre comme une chambre d'internat, quoi. Donc peint en rose. On n'était pas dans l'hôpital, quoi. Donc ça, déjà, moi, ça m'a libérée. Et puis surtout, en fait, dès le premier entretien que j'ai eu avec l'équipe de la pomme, donc il y a une pédopsychiatre, d'autres psychiatres, et puis après il y a infirmière, auxiliaire de puériculture, enfin c'est une grosse équipe. Et la pédopsychiatre, elle m'avait dit tout de suite, elle m'avait dit mais ça fait combien de temps que vous vivez ça? Donc je lui avais dit bah ça fait à peu près 2 mois, et elle m'avait regardé, elle avait fait oh là là, mais genre d'un air hyper admiratif. Donc là, je m'étais dit genre, il y a quelqu'un qui est admiratif. Enfin, tu vois, ça m'avait déjà. Je m'étais dit genre, oh, il y a quelque chose de positif, quoi. Et puis elle avait dit, mais eh ben franchement, chapeau, vous avez tenu bon. Et ce que vous faites, madame, c'est une dépression postpartum. C'est 10 à 15% des femmes qui sont touchées. Ça arrive à beaucoup plus de gens que ce qu'on peut imaginer. Et la pensée que vous avez eue, ça s'appelle une phobie d'impulsion. Et j'en ai entendu des pires. Donc vous inquiétez pas. En gros, vous êtes normale. Vous n'êtes pas folle. Et là, j'ai senti le nœud qui était dans mon ventre qui s'est dénoué en une seconde. On m'expliquait ce que j'avais. Il y avait un nom. Il y avait des termes médicaux. Enfin, donc en fait, quand je suis arrivée à la pomme et qu'en plus de ça j'ai retrouvé Léanor, je savais que je n'allais pas lui faire du mal parce qu'elle m'avait expliqué en plus la phobie d'impulsion. Elle m'avait dit en règle générale c'est juste le cerveau qui est tellement inquiet qui vous met en état d'alerte, mais il vous dit pas que c'est ce que vous allez faire. C'est juste qu'il vous avertit de votre peur en gros. Voilà. Et puis surtout, elle m'avait dit, comme vous l'avez dit, vous avez tué la pensée dans l'œuf. En fait, à partir du moment où on oralise ces pensées-là, qu'on a tendance à garder pour soi parce qu'on a honte, et ben en fait, on se sauve. Donc elle m'avait dit, vous êtes déjà sauvée toute seule. Et donc, ça m'avait vachement rassurée. Et donc, quand j'ai retrouvé Léanor, j'ai retrouvé dans un état où je me suis dit, ok, je ne vais pas lui faire de mal, donc j'ai le droit d'être sa mère et j'ai le droit de me reconnecter avec elle. Donc finalement, c'était un truc de ouf, quoi. C'était un pas franchi qui était énorme.
Et alors, qu'est-ce qui se passe à partir du moment où on te dit ça? Est-ce que tu restes encore dans l'unité quelque temps?
Oui, je suis restée 2 mois. Entre-temps, il y a Tanguy qui a fini par être au courant de tout ce qui m'arrivait parce que je filtrais beaucoup. Ouais. Je me débrouillais pour... donc, il savait que j'étais hospitalisée et tout, mais je me débrouillais pour qu'il ait le moins d'informations possible jusqu'à ce que le médecin du bateau, en fait, qui était au courant par l'hôpital militaire et qui était un ami de Tanguy, et ben il lui a dit, écoute, Tanguy, là, il faut que tu rentres. En fait, Isor va pas bien. Il lui a dit tout ce que je cachais. Et donc Tanguy en a parlé à son commandant, qui a été hyper sympa et qui lui a dit go rentre là la mission on n'est pas en guerre et rentre chez toi quoi, ta place est auprès de ta femme. Donc il est rentré ouais. Un mois et moi j'ai été poussée par le médecin de l'unité la pédopsychiatre. Elle m'a dit bon bah maintenant vous lui dites tout en fait. Donc je lui avais caché la phobie d'impulsion, je lui avais pas dit et voilà. Et donc on s'est retrouvés en vérité. Donc j'ai vraiment j'ai tout balancé, les infos croustillantes et les infos que je tentais de cacher en vain et ça nous a fait du bien. Ça nous a fait du bien conjugalement d'être enfin en vérité et surtout je me suis dit bon il va rester. Enfin il écoutait ce que je disais, il était là quoi, il partait pas en courant et il était pas estomaqué ou dégoûté ou enfin voilà, il est resté en face de moi et il était là. Donc c'était un gros point positif aussi parce que j'étais vraiment intimement persuadée qu'il me quitterait. Vraiment. Mais je pense que c'est aussi la dépression qui fait voir les choses d'une manière beaucoup plus sombre où on a tendance à imaginer toujours ouais. Le pire chez les autres, quoi. Donc, ça, c'était vraiment... C'est drôle parce que la pomme, là, donc c'est vrai, l'unité dans laquelle je me suis retrouvée, les premiers mois, ça a été vraiment synonyme d'un immense soulagement, en fait. Autant sur le plan... psychique où je me suis dit que j'étais normale et que j'étais pas dangereuse, mais aussi sur le plan amoureux quoi, d'un soulagement ouais. De me dire il est toujours là et puis il m'aime malgré tout et il m'aime totalement en vérité. Ça c'était aussi un grand soulagement, je le répète, mais c'était ça.
Et alors maintenant que tu te sens entourée et soutenue, tu rentres chez toi, comment ça se passe le retour à la maison?
En gros, effectivement, Tanguy est resté 1 mois avec moi. Après, il devait quand même rentrer pour reprendre le travail. Et j'ai eu encore 1 mois donc dans cette unité où j'étais toute seule, mais ça m'a fait vachement bien parce que du coup, j'allais mieux, je reprenais confiance. On me donnait plein de petits tips pour être assurée dans les gestes que j'avais, dans les choses que je faisais. Je pense que le mot d'ordre de l'équipe, c'était vraiment de me redonner confiance. Donc, dès que je faisais quelque chose, c'était toujours là. Mais oui, vous faites très bien. J'avais le droit de poser toutes toutes les questions possibles sans j'avais jamais l'impression de les embêter ou d'être dans la répétition, parce que en fait à chaque fois elle me rassurait en me disant mais c'est oui, OK, elle me répondait, enfin ça c'était hyper agréable. Du coup petit à petit, j'ai gagné en confiance au fil des semaines et quand Tanguy est reparti, bon ça avait été un peu dur, mais finalement une fois que je me suis retrouvée seule, enfin sans être vraiment seule puisque j'étais toujours dans l'unité et j'étais toujours à l'hôpital, mais j'étais en tête-à-tête avec Eleanor. Bah du coup je me suis vraiment déployée toute seule, un peu comme mère quoi. C'est comme si elle avait bien 4 mois 3 mois, et là ça y est, je m'installais complètement dans mon rôle de mère. Et du coup j'ai franchi des petites étapes, j'ai fait des permissions parce qu'en gros on a le droit de sortir en fait de l'hôpital avec c'est vraiment une permission, donc ça peut être quelques heures ou ça peut être 24 heures ou ça peut même être 48 heures. Donc du coup j'ai commencé au début par sortir juste un peu une après-midi toute seule, et puis après j'ai osé sortir une journée entière, et puis après je suis carrément allée chez mes beaux-parents qui étaient pas très loin à passer un week-end, donc ça voulait dire gérer une nuit toute seule. Et en fait les choses elles se sont faites par étapes, mais ça s'est toujours bien passé parce que je franchissais mes petites barrières de peur vraiment pas à pas, et ça c'était très agréable. Et puis j'étais hyper entourée par l'équipe soignante, donc il y avait toujours des retours où à mon retour de permission on disait ce qui avait été facile, ce qui avait été difficile, et j'avais un regard qui était très bienveillant de la part de ces soignants sur ce que je faisais. Et du coup je pouvais que être valorisée, en fait ça c'était hyper agréable. Donc voilà, à partir d'un moment où il y a vraiment eu un déclic où je me suis sentie beaucoup mieux, donc on en a discuté avec l'équipe et on s'est dit bah ok, go pour partir, pour rentrer chez vous. Il fallait bien sûr que ce soit validé par tout le monde, et puis ils m'ont dit quand même à votre retour en Martinique, il faut que vous ayez un suivi psychologique, voilà c'est important, ce qui s'est passé c'est pas du tout innocent. Bon moi j'étais assez open parce que je me suis bien, enfin voilà, j'étais assez dans, enfin je voyais bien que c'était quand même pas quelque chose de très ordinaire en fait de réagir avec une telle intensité à la naissance de son bébé. Donc ils m'ont donné des contacts pour continuer le travail, le suivi thérapeutique, et puis je suis rentrée en Martinique avec Eleanor. J'ai fait vraiment, mais la plus grosse étape c'est de prendre l'avion toute seule avec elle. Et ça,
ouais, c'est trop chouette. Donc là, ça y est, tu prends tes marques dans la maternité. À quel moment vous décidez de faire un deuxième enfant?
Alors, au départ, moi déjà, je m'étais dit j'en aurais plus jamais. Juste après, alors c'était vraiment quand j'étais dans le mal absolu où après Eleanor, je m'étais dit plus jamais. Puis en fait, le temps fait vraiment son effet. Elle commence à grandir, elle marchait, elle devenait de plus en plus autonome, elle avait son petit caractère qui se dessinait. Et puis en fait, j'étais quand même très en paix par rapport à ce qui s'était passé finalement. Enfin, je me disais en fait, c'est hyper positif, ça s'est très bien fini, ça se passait bien avec elle, je me sentais bien avec elle, ça se passait bien avec Tanguy, on s'était un peu reconnectés, on avait rééquilibré notre couple. Je me disais vraiment, c'est une épreuve qui a été très rude, mais dont on a su tirer du positif ou voir la lumière qui était derrière le noir. Je me sentais vraiment bien. Et je pense qu'en fait, l'un et l'autre, on vient tous les deux d'une fratrie où on s'entend bien avec nos frères et nos sœurs. Et j'avais vraiment envie de voir Eleanor jouer avec un petit frère ou une petite sœur. Et de manière assez naturelle, en fait, je dirais peut-être quand elle avait 1 an et demi, 2 ans, on s'est dit bah go quoi. Alors après voilà, moi je voulais quand même être sûre que psychologiquement j'étais stable, donc je continuais à avoir un suivi thérapeutique. On avait vu un docteur spécialisé dans les difficultés familiales. On l'avait vu tous les trois, on a fait 2 ou 3 rendez-vous, on est venus tous les trois. Mmh. Et il nous avait dit bah en gros, ça va carrément, allez-y quoi. Donc j'avais besoin d'avoir quand même une petite validation médicale qui me disait ce que c'est OK pour vous. Donc ça on l'a eu. Ensuite, on a eu aussi l'arrêt des antidépresseurs, parce que je prenais des antidépresseurs. Donc, de toute façon, c'était pas compatible avec une grossesse. Donc, c'était vraiment, je me suis vraiment dit, OK, si j'arrête les antidépresseurs, ça se fait de manière assez, il faut le faire doucement. Donc, j'avais le temps, en fait, le temps d'arrêter les antidépresseurs. C'était un peu le temps de me préparer psychologiquement à avoir un nouvel enfant. Et le jour où j'ai vraiment complètement arrêté les antidépresseurs, c'est là où on s'est dit, bon, bah, go.
Et donc alors, comment ça s'est passé cette deuxième fois ?
Eh ben, une nouvelle fois, je suis tombée très vite enceinte. On était tous les deux très heureux d'apprendre que ça avait fonctionné. J'ai aussi eu une grossesse facile. et où j'étais en forme sans tous les maux liés à la grossesse. Et, ouais. Et là, à nouveau, pendant la grossesse, s'est posée la question des absences et de la solitude, parce qu'on a appris au cours de la grossesse qu'il risquait d'y avoir une mission au moment de la naissance. Donc ça, ça a été dur, parce que je me suis dit, mais en fait, si Tanguy n'est pas là, j'y arriverai pas, j'y arriverai jamais et tout. Et puis en fait, je pense qu'avec peut-être un peu d'inconscience quand même, avec le recul ou une certaine légèreté, ou un peu de... On s'était dit, oh, c'est bon, ça va le faire. Je pense que j'avais beaucoup de mal à me dire que ça pouvait recommencer, parce que les médecins ils savaient pas trop quoi nous dire. Finalement, il y a pas trop de données en fait sur les dépressions postpartum, donc quand on en parlait à des médecins, les gens disaient non, franchement, vous allez bien, ça va. Donc on était peut-être un peu foufou ou inconscient, mais je m'étais dit bon, si je dois accoucher toute seule, je me débrouillerai pour être bien entourée. J'avais pas envisagé le pire en fait, mais on s'était quand même dit, une fois qu'on a su les dates de la mission, donc heureusement c'était pas au moment de l'accouchement, c'était 2 semaines, il devait partir 2 semaines après mon terme. Et du coup, on s'est dit, bon, quand même, on va prendre les choses avec sérieux. Et je suis allée m'installer chez mes beaux-parents, que j'aime beaucoup, avec qui j'ai un bon rapport et je me sens sécurisée dans leur famille, dans leur maison et tout. Et donc, on est parti s'installer 2 semaines avant la naissance. J'ai pris Léanor, j'avais trouvé une crèche pour elle chez mes beaux-parents. Et puis, Tanguy m'a aidée à m'installer chez eux. Et donc, du coup, j'ai fait la fin de mon suivi, entre guillemets, un peu gynéco, dans l'hôpital à côté de chez eux. Et puis on a attendu que le bébé arrive, quoi.
Et alors, tout s'est bien passé le jour J?
Ouais, franchement, tout s'est bien passé. Une nouvelle fois, on n'avait pas demandé le sexe. Nous, on aime bien garder la surprise. Et ouais, franchement, ça s'est bien passé. Je pense que ça a été plus rapide. Bah, forcément, c'était un deuxième. Et là, ce que j'ai bien aimé, c'est que la péridurale était hyper bien dosée. Donc, j'ai vraiment senti le bébé passer, mais sans douleur. Donc ça, j'ai trouvé ça hyper agréable. Et puis quand, donc c'était un petit garçon qui s'appelle Pio. Ouais. Et j'ai ressenti un peu justement ce dont parfois parlent les mamans, un élan de tendresse en voyant ce petit bébé, en voyant ce petit garçon, et j'étais je pense que j'avais été tellement rassurée sur les gestes à avoir, sur comment faire sur le poids à peau, le fait de garder son petit bébé très enroulé, très serré. On me l'avait tellement dit à la pomme avec Eleanor, la différence avec Eleanor, c'est que vraiment, entre la naissance d'Eleanor et la naissance de Pio, les gestes pour Pio étaient ultra naturels. Ça y est, j'avais un peu cette petite connexion maternelle, puisque j'avais déjà expérimenté, en fait, avec mon aîné. Et je garde un bon souvenir de la naissance, quelque chose de... J'ai été hyper heureuse, je me sentais pas nulle comme je m'étais sentie nulle pour Eleanor, quoi. J'avais l'impression que ce que je faisais, c'était juste, c'était ordonné, que je savais comment m'occuper de mon petit garçon. Donc ça, c'était vraiment chouette.
Ouais. Et après, le retour à la maison, tout s'est bien passé en postpartum?
Eh ben non, en fait, assez vite, j'ai commencé à me dire que j'y arriverais pas. L'allaitement, là, ça se passait très bien, mais c'était plus... C'est drôle, hein, la phrase qui circulait dans ma tête, c'était « j'ai réussi pour un enfant, mais j'y arriverai pas pour deux ». En fait, je me suis trompée, j'ai pas les épaules pour en avoir deux, je vais mal faire, j'avais très peur, en fait, de pas savoir partager mon temps. J'avais l'impression que si je passais du temps avec Eleanor, c'était au détriment de Pio, et puis c'était l'inverse. J'arrivais pas à orienter mes priorités entre mon nourrisson et mon aîné, qui avait aussi besoin de moi, parce qu'elle avait 2 ans et demi, quoi, même un peu moins, donc elle avait été encore petite. Ouais. Et j'ai recommencé à faire des insomnies, et je pense que je garde un souvenir terrible des insomnies pour Eleanor. Et donc, j'ai été très vite dans l'angoisse que ça recommence. Et c'est un peu comme si l'angoisse créait de l'angoisse. Et du coup, c'était un cercle vicieux qui, du coup, m'a mis dans une humeur, en fait, très négative. Mais l'avantage d'avoir vécu ça une première fois, c'est que avec Tanguy était là et on s'est dit ok, on va prendre les choses tout de suite, très au sérieux. Donc on a rappelé la pomme. J'avais réussi à récupérer leur numéro de téléphone. Je leur ai dit voilà, ça recommence. et ils m'ont dit ok, on venait en entretien. En fait, pour moi, mais je sais pas si je me trompe, mais les unités comme ça, donc les unités parents bébé, on peut pas y rentrer directement. Il faut avoir l'aval soit d'un hôpital psy, c'est ce qui s'était passé la première fois, soit d'un médecin ou d'un psychiatre qui appelle l'unité et qui dit voilà, j'ai une patiente que j'aimerais bien vous envoyer. Là, ils me connaissaient, donc ça m'a aidé. Et donc du coup, c'est grâce à ça que j'ai pu avoir l'entretien. Et en entretien, je pense qu'ils ont reconnu les symptômes et ils m'ont dit vous avez de la chance parce qu'en fait on a de la place. C'est des petites unités, donc souvent je dirais c'est entre 5 et peut-être 10 mamans, et là elles étaient 3 mamans et pour 5 places, donc j'avais la place. Et j'ai vu ça moi comme donc j'étais pas bien du tout, c'était beaucoup plus intense en termes de symptômes dépressifs. J'avais vraiment des grosses envies suicidaires que je n'avais pas trop eues pour Eleanor.
Ah ouais?
Ouais, j'avais tellement peur que ça recommence. Je me suis dit, je vais pas y arriver, c'est trop gros, je vais pas y arriver. J'avais envie que ça s'arrête. Et donc, le seul moyen pour que ça s'arrête, je pense que le seul moyen pour que ça s'arrête totalement, en fait, finalement, c'était les enfants, c'était la mort, quoi. C'était à ça que je pensais. Donc ça nous a vraiment mis, on s'est vraiment dit, genre, OK, on va prendre ça très, très au sérieux. Et du coup, Pio, il est né le 9 janvier. Et le 20, j'étais à l'hôpital à la Pomme. C'était le truc qui était déjà calé. On s'est dit, en fait, il faut que je mette en sécurité, et puis Léonore, elle sentait les choses. Tanguy lui repartait le 20 aussi, le 20 janvier il repartait en mer, donc c'était trop lourd pour mes beaux-parents. Je pense qu'ils pouvaient pas gérer quelqu'un qui avait envie de mourir, quoi, clairement. J'avais pas envie d'imposer ça à ma petite fille, et je voulais être en sécurité avec Pio. Et donc, du coup, le 20 janvier, j'ai fait mon entrée à l'hôpital. Et puis, le lendemain, Tanguy partait en mission.
Et t'es restée combien de temps cette fois-ci?
Je suis restée 2 mois aussi.
Ah ouais, d'accord.
Ouais, c'est long, hein, en fait. Hein, c'est vraiment... Là, au départ, ce qui est compliqué dans la dépression, c'est que c'est long, en fait. C'est long, c'est lent. Et puis, parfois, on va prendre une décision donc la décision d'être hospitalisé ou de se faire aider. Et sur le moment, c'est hyper réconfortant parce que ça y est, il y a un truc qui bouge. On a l'impression qu'on fait, et d'ailleurs, c'est vrai, on se prend en charge. Mais du coup, j'ai souvent eu cette impression-là de dire, ça y est, tout sera réglé. Donc une fois que je serai à l'hôpital, ça ira mieux. Pour Eleanor, je m'étais dit une fois que j'aurai quitté la Martinique, ça ira mieux. En fait, non, les choses elles sont plus lentes. On parle en termes de semaines, voire même de mois, quoi. Donc il faut vraiment prendre patience. Et s'il y a des mamans qui écoutent et qui c'est horrible le mot patience parce qu'on n'a pas l'énergie pour supporter ce mot, mais pourtant il faut prendre patience et surtout il faut se dire un jour ça va s'arrêter. Ça c'est vraiment la phrase que je pourrais dire à toutes les mamans qui sont un peu dans la détresse. C'est je vous promets ça s'arrêtera. Ça sera long, mais ça s'arrêtera. Voilà, ça va s'arrêter, ça va passer et un jour vous irez mieux, quoi. Je vous promets. Je pense que c'est vraiment ce que je dirais. Prenez patience, ça va être long, ça va être dur. Ne soyez pas trop pressés, mais je vous promets que ça passera.
Est-ce que tu as compris d'où ça venait, cette dévalorisation que tu avais de toi-même une fois que tu devenais maman? Cette tendance à te dire que tu n'y arriverais pas?
Alors, je pense que c'est lié à plusieurs choses. Il y a mon histoire parentale. Moi, j'ai une relation compliquée avec ma mère. Dans mon enfance, j'ai vraiment été aimée, mais je pense que j'ai été aimée de manière parfois maladroite, de manière parfois brutale. Après, elle a sa propre histoire aussi, ma mère. Donc, de toute façon, on est le fruit de toutes nos histoires. Hein, ça, c'est le transgénérationnel. Donc, il y a un rapport, je pense, à la violence, une certaine forme de violence, une certaine forme d'agressivité. Et moi, j'ai vraiment grandi en me disant, je serai jamais comme ça. Et donc je serai parfaite. Donc je pense qu'il y a le syndrome de la perfection qui était exacerbé par rapport à la maternité. Et puis il y a aussi mon caractère où je suis très dans le contrôle, je suis très dans la maîtrise. Et en fait je pense qu'un nourrisson c'est la personne qu'on peut le moins contrôler et qu'on peut le moins maîtriser. Et donc du coup ça faisait tout tomber, en fait. Toutes les petites barrières que je m'étais construites pour être rassurée, pour être debout, pour être quelqu'un de responsable, et ben là, ça faisait mais tout tomber, en fait.
Et alors là, le retour à la maison s'est bien passé aussi après les 2 mois?
Le retour à la maison alors, était un petit peu précipité parce que c'était pile poil au moment du confinement et du Covid. Parce que c'était vraiment. Donc je pense que j'aurais pu rester un petit peu plus longtemps à l'hôpital parce que j'avais encore des petits trucs à stabiliser. Mais en fait, comme c'était la panique partout en France, personne savait comment ça allait se passer parce que en plus moi j'étais à l'hôpital donc en région parisienne, non, j'étais à Paris même. Et Tanguy, il était à Toulon pour son boulot. Donc du coup on s'est dit ça va être trop compliqué. Il pourra pas forcément remonter me voir, il était avec Eleanor, enfin donc du coup moi j'avais envie de rentrer, je me suis dit je pourrais pas vivre l'hospitalisation de manière sereine si j'ai pas des visites de mon mari et de ma fille quoi. Donc du coup en accord avec l'hôpital, je suis rentrée. Ça a été un peu dur au début parce que je trouve aussi que dans la dépression, il peut y avoir des oscillations. Ça, c'est le truc à bien garder en tête. C'est qu'il y a des moments où ça va, puis on a l'impression que ça y est, le truc est gagné. Et puis en fait, il y a un nouveau un petit bas. Puis après, il y a un haut. Et puis après, il y a un petit bas. Mais c'était Tanguy qui avait trouvé cette comparaison que j'avais bien aimée. Il disait en fait, c'est comme les oscillations de Newton, où en gros, il y a au départ des hauts et des bas qui sont très très hauts. Et puis ça, petit à petit, ça tend en fait à diminuer. Donc, c'est toujours des petits hauts et des petits bas, mais ça devient de plus en plus petit et après, ça y est, ça s'arrête. Donc, c'est en ça où je rejoins ce que je disais tout à l'heure sur la patience. C'est pas parce qu'il y a un nouveau un bas qu'on repart dans quelque chose de dramatique. Il faut accepter qu'il y ait des moments où, hormonalement, ou en termes d'humeur, ou en termes de... Je sais pas trop comment expliquer... On a un peu des creux, mais ça ne veut pas dire qu'on est reparti comme au début avec la détresse totale. Parce que vraiment, en tout cas, les deux fois, puisque finalement j'ai deux expériences, j'ai vraiment trouvé que c'était des creux qui s'atténuaient et qui ensuite finissaient par s'éteindre et par ne plus exister.
Et au-delà de l'accompagnement, tu étais médicalisée aussi ?
Ouais, antidépresseur. Donc ça, j'étais autant pour Eleanor, c'était la panique à bord quand on m'a parlé d'antidépresseur parce que j'étais dans mes clichés de ça va me rendre un peu atone, j'aurai le regard vide et puis je serai à garde et tout. Bon, c'est pas du tout ça. Effectivement, je pense que c'est difficile. Il faut trouver la bonne molécule, il faut faire confiance à son psychiatre. Peut-être que c'est mieux quand même d'avoir un psychiatre d'ailleurs parce que c'est leur taf en fait, c'est leur spécialité qui connaît très bien quelles sont les bonnes molécules qu'un médecin généraliste. Bon, ça, je sais pas, mais et là pour Pure, c'était même pas une question quoi. Direct, je savais que ça m'avait quand même aidé la première fois, donc j'ai pas du tout rechigné à en prendre et donc j'ai continué à en prendre pendant longtemps en fait. Hein. Je pense clairement, je dirais, et pour Eleanor et pour Pure, j'ai dû en prendre pendant à peu près entre un an et demi et deux ans quoi. Et en fait, on dit par exemple, si on en prend la dose la dose maximum, si on en prend pendant 9 mois, et ben ensuite après pour arrêter, il faut 9 mois aussi. Voilà, il faut baisser tout doucement la dose de manière très très douce pour éviter que le corps soit que l'arrêt soit trop rude et que le corps soit en manque en fait.
Ouais.
Et puis en fait c'est drôle parce que pour Eleanor j'avais qu'un désir, c'était d'arrêter de prendre des antidépresseurs, tandis que pour Pio je m'étais dit franchement. Je m'en fous, en fait, d'arrêter. Bien sûr, il y a un moment, il faudra que j'arrête, mais c'était pas un objectif, une case à cocher pour me dire, ça y est, c'est bon, je suis normale, tout va bien. Là, je me disais, j'en prendrai tant qu'il faudrait que j'en prenne, en fait.
T'as eu des peurs quand t'as arrêté ?
Non, parce que, franchement, déjà, ça allait mieux. Ça allait vraiment mieux. Enfin, j'avais retrouvé mon équilibre. L'avantage du confinement, c'est que nous, on était tous les quatre dans notre appartement, qu'il n'y a pas eu de, on s'est retrouvé dans une vie familiale qui était un peu cloîtrée mais qui était saine parce qu'on avait besoin de se retrouver à quatre en fait de reprendre nos places et on n'avait pas la tentation d'aller voir des copains, de fuir une petite réalité qui était peut-être un peu de temps en temps triste parce que justement j'avais des moments où j'étais plus dans un bas, j'étais plus dans un creux, mais au moins on n'a pas fui ça. Et finalement, je pense que ce confinement qui a été rude, il nous a rendu service aussi. Et à la fin du confinement, j'étais ok dans le fait que j'arriverais à m'occuper de mes deux enfants en même temps, sans que ce soit au détriment de l'un ou de l'autre. Et j'étais aussi ok avec le fait d'être seule avec eux, parce qu'il y a toujours cette peur là. J'ai peur d'être seule avec eux. Et là, c'était le truc était acquis quoi. J'étais sereine en fait dans ma vie de mère. Donc et je pense que les antidépresseurs, j'ai dû les arrêter clairement un an après la fin du confinement, en fait. Donc, ça allait largement mieux.
Et tu travaillais pendant ces périodes-là ? Tu étais en congé mat, j'imagine, les fois où tu es restée 2 mois dans les...
Non, je ne travaillais pas. Je pense que ça m'a... Peut-être que ça a aidé aussi... Enfin, Je me dis peut-être qu'une maman qui travaille aussi, ça peut l'aider à reprendre pied dans la réalité, parce que je trouve que la dépression, pour moi, c'est quelque chose qui te coupe de la réalité, qui te met dans un petit nuage très sombre. J'ai souvent trouvé d'ailleurs que ce qui m'aidait à aller mieux, c'était de sortir de mon nuage, en fait, d'aller faire des trucs très concrets. Donc peut-être que le travail, ça aurait pu m'aider. Donc je suis éducatrice spécialisée. Au début de notre mariage, j'ai fait une validation d'acquis, donc pour avoir mon diplôme. Et en fait, je l'ai validé entre la naissance d'Eléanor et la grossesse de Pio, en fait. Donc c'est un process qui est un peu long. Et quand j'ai eu mon diplôme vraiment d'État qui certifiait que j'étais bien éducatrice spécialisée, j'étais déjà enceinte de Pio. Et donc j'ai commencé à chercher du taf et tout, mais en me disant EduxPé, c'est compliqué quand même, parce que moi j'avais envie de travailler avec un public en situation de handicap. Et en fait, ouais. Si tu viens, que tu commences à créer du contact avec les jeunes avec lesquels tu bosses, et qu'en fait au bout de quelques mois tu t'en vas, finalement ça a pas trop de sens. Donc du coup, j'avais passé des entretiens, mais je savais qu'en étant, et je leur avais dit de toute façon je pouvais pas le cacher que j'étais enceinte, je savais que ça serait plus compliqué quand même. Pour moi de trouver du boulot et puis pour même pour l'équipe en fait de me prendre en sachant que j'allais partir quelques semaines ou quelques mois plus tard en congé. Mais donc du coup j'ai jamais travaillé à chaque fois.
D'accord. Et alors donc le petit troisième baby.
C'est vraiment un mystère aussi, parce que après la naissance de Pio, là, je m'étais dit, je vais me faire ligaturer les trompes et tout. Je ne peux pas revivre ça. C'est trop intense. C'est trop, les envies suicidaires, c'est quand même quelque chose qui est très, très perturbant, très traumatisant à vivre. Donc, je voulais pas imposer ça à mes enfants, à mon mari. Je voulais pas avoir revivre cette terreur, quoi, cette terreur de la mort qui est si proche et qui à la fois qu'on désire et qu'à la fois qu'on aimerait éloigner au plus loin possible. Et puis, qu'est-ce qui m'a aidée? Donc déjà le temps, comme toujours, hein, le temps. J'avais une amie qui est sage-femme qui m'avait dit, qui m'avait tout expliqué. Elle me disait, t'as 30 ans, un petit peu plus de 30 ans, donc en règle générale, les médecins, ils sont pas fana-fana, mais si tu leur donnes, si t'expliques les choses avec la dépression postpartum, je pense que ton dossier, en gros, il sera validé, quoi. Mais elle m'avait dit, surtout, parle-en, de toute façon, c'est une décision qu'on prend à deux, et puis prends ton temps, quoi. Et donc, voilà, donc déjà le temps a aidé, et puis j'ai recommencé finalement, parce que j'ai jamais arrêté, mais j'ai commencé une thérapie avec une psychologue de Toulon. Okay. Et en fait j'ai eu un super fit avec elle, et on a vachement travaillé le fait d'accepter ma fragilité, ma vulnérabilité, et j'ai compris que je pouvais me faire ligaturer les trompes. Effectivement, c'est hyper sécurisant. Ça veut dire que j'étais sûre et certaine que je ne tomberais plus jamais enceinte. Mais en revanche, ce que j'ai compris en travaillant avec la psychologue, c'est que la vulnérabilité, elle était là en moi, en fait, et que je fermerais pas la porte, même si là, ça me rassurait sur le moment. D'autres événements, d'autres choses pourraient révéler à nouveau ma vulnérabilité. Et du coup, plutôt que de me dire je me ferme à tout et je me protège, c'était plus je vais essayer de comprendre qui je suis, comment je fonctionne, et accepter en fait qui je suis. Et en fait, c'est vraiment cette année-là où je me suis dit, mais je m'en fous de continuer à prendre des antidépresseurs, entre guillemets, si je dois en prendre jusqu'à mes 70 ans, j'en prendrai jusqu'à mes 70 ans. Si je dois continuer un travail thérapeutique jusqu'à mes 70 ans, je le ferai. Ouais. Oui, je suis fragile, oui, je suis vulnérable, et c'est pas un gros mot, et c'est pas grave, en fait. Oui, je suis pas ordinaire par rapport à d'autres mamans qui vivent les choses de manière beaucoup plus sereine, mais en fait, voilà, c'est comme ça, ça fait mon histoire, ça, c'est des choses qui ont été hyper positives sur notre histoire conjugale, sur mon rapport avec mes enfants, finalement, qui est quand même unique. Et puis, en fait, à un moment, la lumière, elle se fait, le désir d'avoir un autre enfant, il se fait. Et là, on s'est dit, en revanche, je voulais être sûre que c'était quelque chose qu'on pourrait pas me reprocher. J'avais très peur qu'on me retire la garde de mes enfants. Donc, j'ai vu ça. Ouais, je me disais, est-ce que c'est pas un peu d'irresponsabilité de relancer un troisième alors que tu sais que t'es quand même fragile dans la pré-naissance. Et en fait, donc j'étais suivie par la psychologue, mais j'étais aussi suivie par un pôle parent-bébé. Donc ça, c'était par une psychiatre. C'était elle, en fait, qui me disait la dose elle me disait, en gros, on va diminuer. Voilà, il vérifiait que j'étais bien au clair dans ma tête. Et du coup, on a bien décortiqué en fait le sujet avec donc le pôle parent-bébé, avec la psychologue. Est-ce que je voulais avoir un troisième enfant? Pourquoi je le voulais? Est-ce que c'était pour des bonnes raisons? Est-ce que c'était pour des mauvaises raisons? Et en fait, ils m'ont et le pôle parent-bébé et la psychologue m'ont dit non, on va pas vous retirer la garde de vos enfants si vous faites une troisième dépression. Mais en revanche, et déjà on va essayer de tout faire en sorte avant, en amont, pour pas que ça arrive. Et si ça arrive, il faut que vous ayez un maillage de sécurité pour votre famille et pour vous-même pour l'après-naissance. Et du coup, c'est vraiment ce qu'on a construit avec Tanguy. On s'est dit OK, go pour un troisième, mais à une seule condition, c'est qu'il faut que tout soit sécurisé au maximum. Toi, faut pas que tu partes en mer, ça c'est fini. Si jamais je repars à l'hôpital, il faut que Léanor et Pio, ils aient leur père qui soit là, qui viennent les déposer à l'école, qui viennent les chercher, qui restent chez eux dans leur chambre, dans leur habitude, avec leurs copains. Maintenant, c'est fini, on déménage plus pour aller accoucher chez les beaux-parents, quoi. Enfin, ouais. Donc on a essayé de. Donc du coup, il fallait lui qui prenne des choix dans sa carrière. On a aussi décidé avec le pôle parent-bébé que je continue à prendre mes antidépresseurs pendant la grossesse. Donc c'était à une dose minimum et c'est une molécule qui est compatible avec la grossesse et l'allaitement aussi. Et comme ça, en fait, comme il y a une part quand même d'hormones dans la dépression postpartum, il y a une chute que certaines femmes, donc moi en l'occurrence, oui, supportent pas. Et ça les met dans... C'est vraiment quelque chose... hormonalement, quoi. Donc, du coup, c'était pour éviter cette chute hormonale que j'ai continué à en prendre pendant toute la grossesse et puis, ensuite même après. Voilà, il y avait ça, il y avait, le suivi, qui a été hyper, le suivi gynéco, qui a été hyper concret, sérieux. Il y avait le pôle parent-bébé Camille qui était en contact avec la maternité. On m'avait dit vous resterez 5 jours comme ça on va pouvoir. Il y aura des gens du pôle parent-bébé, donc il y avait une psychologue qui passera. Comme ça on pourra voir si vous avez les premiers symptômes. Enfin le truc était vraiment.
Ouais, tout était préparé cette fois-ci en amont.
Exactement.
Et alors, comment ça s'est passé pour cette troisième fois, ce troisième postpartum?
Eh ben, ça s'est bien passé. S'est bien passé. Franchement, c'est vraiment le petit. J'en garde un souvenir de joie, quoi. C'est une année qui a été incroyable. Il y a eu les jours à la maternité qui ont été un petit peu durs parce que je pense que j'ai un souvenir très traumatique de l'hôpital. C'est quelque chose qui, souvent l'univers un peu froid de l'hôpital, c'est un truc que je n'aime plus parce que j'associe ça à des très mauvais souvenirs. Mais donc j'ai eu très peur de refaire des insomnies. J'étais vachement dans l'anticipation. On appelle ça une anxiété d'anticipation. Mais heureusement, déjà je suis restée 5 jours à la maternité et donc il y a eu le 2 ou 3 fois le passage de la psychologue du pôle parent-bébé qui est venue. Et en plus de ça, j'avais ma psychologue au téléphone, qu'elle était en vacances, mais elle a pris le temps de m'appeler, de me parler, de me rassurer. Et en fait, tout le monde me connaissait, tout le monde savait quelles étaient mes angoisses. Et je pense qu'ils étaient là à désarmer le truc. Donc ça m'a vachement aidée en fait de savoir que j'étais soutenue, entourée. En plus, il y avait Tanguy qui était là, donc je savais que j'avais tellement l'habitude qu'ils repartent. C'est drôle qu'il y avait des moments quand je suis rentrée à la maison, j'avais des petites inquiétudes en me disant oh, ah merde, là Tanguy va partir, et puis je me disais ah mais non en fait il est là, ah bah oui, et là tout d'un coup ouf, j'avais le truc qui redescendait. Enfin, il a eu, en plus c'était trop bien parce que du coup on a eu un petit garçon qui s'appelle Joseph qui est né en août, donc il a eu ses vacances d'été plus le congé parental, donc on a vraiment eu presque 5 semaines tous les 5 avec un père ultra présent qui a pu faire la rentrée des aînés tandis que moi j'étais à la maison en septembre. Enfin, donc et ce qui m'a aidée, je pense aussi, c'était d'être dans le concret, un peu comme ce que je disais. Donc, quand je sentais que j'avais des petites inquiétudes ou des vagues à l'âme, je me disais, allez go, va faire quelque chose avec tes aînés. Et donc, du coup, j'allais jouer avec eux, j'allais leur donner le bain, j'allais, conduire pour faire un truc et tout.
Et ouais, en fait, tu laissais pas trop de place à tes pensées, à ton cerveau.
Exactement. Et en fait, ça m'aidait. Et finalement, je n'ai pas eu de sensation que j'étais nulle. Je me suis pas dit, je suis une grosse nulle, je vais jamais y arriver. Je n'ai pas eu de phobie d'impulsion. Je n'ai pas eu de pensée suicidaire. J'ai réussi à dormir. Ouais, j'ai eu une naissance, un après-naissance en fait ordinaire, quoi, avec bien sûr hein, des coups de mou, des petites inquiétudes quand j'entendais mon bébé pleurer parce qu'il avait mal au ventre, mais ça, c'était sans commune mesure avec ce que j'avais vécu avant, en fait.
Ce troisième bébé a changé la donne de ton postpartum.
Exactement. Mais je pense que c'est vraiment parce qu'on avait pris des leçons en fait aussi des deux premières naissances où on a compris. Enfin voilà, j'ai compris que j'étais de nature angoissée, mais ça c'était un truc que j'avais pas du tout identifié avant. Donc voilà, étant de nature angoissée, et ben voilà ce qu'il fallait pour que les choses soient plus sereines. Il y avait aussi la présence de Tanguy. En fait, je pense que honnêtement, ça a joué. Enfin ça, c'est un des trucs qui a fait que la naissance s'est bien passée. Il était là. C'est un mec qui est ultra serein. C'est vraiment la force tranquille. Il en faut peu pour l'ébranler. Et du coup, bah dès que j'avais des petites inquiétudes, des petits machins, il suffisait que je lui en parle. Et on était deux à gérer le truc, quoi. Ça, c'était génial.
Et alors, qu'est-ce que ça a changé chez toi, la maternité?
Ah, c'est une bonne question. Je pense que ça m'a rendue peut-être plus souple et moins présomptueuse, en fait. Parce que avant d'avoir des enfants, j'imaginais plein de choses. J'avais des idées toutes faites et très préconçues sur ce que je ferais, sur qui je serais. Et en fait, j'ai compris que c'était une grosse erreur de réfléchir ainsi. Et maintenant, je me dis, on verra. Et surtout, pas d'idées préconçues dans ta tête, Isor. Ça, c'est fini.
Vous envisagez un petit quatrième ?
Bah, franchement, ouais.
Ouais,
pourquoi pas ? On a la chance de pouvoir, je pense, financièrement, on pourra accueillir un quatrième enfant. Ouais. La porte est ouverte, pas tout de suite, mais la porte est ouverte. Et en revanche, on se dit la même chose. On se dit, on va prendre les choses avec beaucoup de sérieux. C'est pas parce qu'une fois, on a eu la chance que ça se passe bien et que c'était un vrai moment serein de rencontre avec notre petit Joseph qu'il faut se dire, ah, ça y est, c'est bon, tout est gagné, on est des warriors et tout. Non, on va voir les choses avec humilité et à nouveau, on va réfléchir à un temps où Tanguy sera là. C'est vraiment une condition, ça, c'est la condition sine qua non. Et à nouveau, si je dois reprendre des antidépresseurs, moi, je suis prête à recommencer le même schéma que pour Joseph, quoi. C'est-à-dire voir les choses avec réalité, c'est-à-dire que j'ai une fragilité, que les nourrissons, ça me désarme complètement, et donc on va faire en sorte que de mettre une petite armure, un petit blindage pour que tout soit facilité.
On va passer aux petites questions de fin d'épisode.
Très bien.
C'est quoi pour toi être une maman toulonnaise ?
C'est passer ses mercredis après-midi au bord de la plage du Mourillon.
Quel est ton endroit kids-friendly préféré à Toulon ?
Ah bah franchement, je dirais les plages du Mourillon.
Ouais, vous passez beaucoup de temps là-bas ?
Ouais, pas mal. En fait, il y a les plages qui sont du sable, trop sympa. Et puis juste derrière, il y a plein de restos, plein de petits cafés. Donc tu peux te poser, boire ton café pendant que tes enfants ils jouent et ils font des châteaux de sable. Et ensuite, un petit peu derrière, t'as des tonnes de parcs. Des parcs, des jeux, des toboggans, et puis t'as des grands chemins piétons pour faire de la trottinette et du vélo, donc c'est pas mal.
Et quels sont tes projets rien que pour toi et ce prévu en famille ?
Alors le grand projet, c'est la sortie du livre, donc un témoignage que j'ai écrit et qui sort aujourd'hui. Donc ça, c'est mon projet, c'est mon premier gros projet. Alors il s'appelle « Interdit de pleurer ». Et le sous-titre, c'est « Une jeune maman lève le tabou de la dépression postpartum ». Et les projets en famille, bah, je pense que ça va être les prochaines vacances de février où on va pas bouger, on va rester chez nous à Toulon. Mais en fait, on a ma fille aînée, donc elle a eu un vélo à Noël, un super vélo à vitesse. Ensuite, Pio, il sait faire du vélo avec pédale et sans petites roues. Et on a vachement envie de se faire une petite rando où moi je prends Joseph dans le porte-bébé et ensuite on part tous les cinq avec les deux petits qui pédalent à la force de leurs petits muscles et puis je pense on va aller se faire un petit pique-nique pas très loin de hier, donc c'est une ville à côté de Toulon et faire un aller-retour avec les enfants qui pédalent, quoi.
Merci beaucoup Isor.
Bah merci franchement d'avoir pris le temps de m'écouter.
Avec grand plaisir.
Voilà les mamas, c'est un épisode qui s'achève. Merci pour votre écoute. On se retrouve dès mardi prochain pour découvrir une nouvelle histoire qui parle de la maternité, la vraie. En attendant, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et un avis sur votre application de podcast préférée et rejoignez la communauté Hello Mamas sur Instagram. À très vite!
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.